Le hockey sur glace n'est pas populaire parce qu'il n'y a pas de patinoire en Corée du Nord. L'hiver, on répand de l'eau sur le sol, on met une barrière et on attend que ça gèle, c'est tout.
France Inter, le 18-20.
Et ça, c'est l'escale reportage d'un jour dans le monde. Elle nous emmène en Corée ce soir à l'avant-veille de l'ouverture des JO. Et ce hockey féminin mi-nord, mi-sud dont vous avez entendu parler, on essaiera de vous faire plonger dans cette équipe avec une femme au parcours incroyable, vraiment atypique. Elle fait partie de cette équipe. Elle vient de Corée du Nord, mais transfuge depuis longtemps. Sous les radars avec Laetitia Gaillet, vous verrez notamment combien parfois les détails tiennent à deux mots, deux petits mots qui en disent long. Le cinéma en VO, Eva Bétan a vu le film sur l'attentat du Thalys et celui sur l'attentat de Boston. Elle viendra vous en parler. Je vous le dis tout de suite, elle n'est pas sortie totalement édifiée de la salle de cinéma. 18h55, Jean-Marc Four met le monde à l'envers et se demande quelle mouche a piqué Angela Merkel qui, du haut de sa toute neuve coalition, est devenue très, très pro-européenne. Mais tout de suite, comment dit-on MeToo en chinois? Vous allez le savoir. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Es. Un jour dans le monde.
Allez, le combat des femmes depuis quelques semaines, il est partout. Il est chez nous, bien sûr. On le voit beaucoup aussi aux États-Unis, dans les pays européens. Il s'est forcément passé quelque chose. C'est ce qui a donné envie à Courrier International d'aller chercher dans d'autres sociétés, aussi parfois d'ailleurs les plus fermées, ou aussi dans les recoins de notre société à nous, voir où va se nicher parfois un sexisme ordinaire. Et c'est bien de se comparer parfois aux autres, ça rassure, ou parfois d'ailleurs ça console. Bonsoir Claire Pomarès.
Bonsoir.
C'est vous qui avez piloté ce hors-série Femmes, un combat mondial de Courrier International, donc que j'ai là entre les mains. On est content d'être partenaire dans Un jour dans le monde. On va se concentrer, Claire Pomarès, sur quelques lieux un peu difficiles, où les choses en tout cas sont peut-être plus difficiles à rentrer. Je voudrais qu'on aille en Chine avec un premier papier dont on va dire d'abord que c'est un site internet qui est fait depuis Hong Kong, parce que toute la difficulté évidemment en général c'est de pouvoir non seulement parler de ces choses-là dans un pays comme la Chine, mais surtout de le faire passer. Ce qui est extrêmement passionnant d'abord, c'est cette autorisation d'un deuxième enfant, parfois vécu comme une contrainte finalement par certaines femmes. C'est ce qui est expliqué entre autres ici.
Effectivement, donc cette autorisation, elle a été légalisée début janvier 2016. Et donc, on voit bien à travers le témoignage de cette Chinoise qui donc a expliqué sur un blog qu'on pouvait ne pas avoir envie d'être mère, que ça mettait en lumière toute la problématique de la charge mentale, où en fait, les femmes aimeraient presque prendre le rôle du papa. Et en gros, on se pose la question de est-ce que être le papa dans les conventions, c'est-à-dire de ne pas s'occuper du ménage, des affaires courantes de la maison et de l'éducation des enfants, peut vraiment participer de l'émancipation féminine.
Elle est très étonnante, hein, cette femme très qui étonnante. Raconte. Elle dit qu'elle a reçu une pression immense pour faire un enfant. Elle a fini par dire bon d'accord, sauf que je ne m'en occupe pas, ou en tout cas je ne m'en occupe pas exclusivement. Et tout est dans le exclusivement en fait.
Exactement. Alors elle est même vraiment très extrême, puisqu'elle dit même ce sera ma belle famille, à mes parents et à mon mari de s'occuper de cet enfant. Moi, je veux retourner au travail dès le lendemain de mon accouchement. Donc, en gros, en Chine, il y a une coutume qui veut que les femmes restent 1 à 2 mois enfermées chez elles. Donc, elle, c'est carrément l'antithèse de ce qui est la coutume en Chine. Et donc, en effet, ce que révèle bien l'article, c'est que cette réaction, elle a suscité énormément de réactions.
Et oui, c'est là que je voulais vous emmener, parce que des réactions qui ne sont pas forcément des réactions négatives, justement. Donc elle a peut-être ouvert une boîte de Pandore aussi chez plein de Chinoises autour d'elle.
Exactement. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle touche du doigt une réalité sociale qui est en fait de plus en plus courante en Chine. C'est quand même nouveau, mais enfin, qui se développe en Chine, où les femmes s'interrogent vraiment sur le rôle de la mère, du père, et aussi sur leur propre épanouissement personnel, qui jusque-là était complètement nié.
Ça veut dire un papier effectivement écrit depuis Hong Kong pour les raisons qu'on a dites, parce qu'effectivement, c'est beaucoup plus facile, la censure, etc. Mais elle parle à toutes les Chinoises, et en tout cas, ça résonne auprès de toutes les Chinoises. Visiblement.
Exactement.
Allez-y, pardon.
Non, allez-y.
Je voudrais justement, tiens, qu'on y aille en Chine, où décidément il se passe des choses, puisqu'on essaie là-bas de faire émerger des choses, et notamment un MeToo. Mais briser le tabou de la société chinoise, c'est exactement ce qu'on était en train de dire, et braver aussi la censure, c'est un peu double travail, parfois aussi double peine. C'est Dominique André qui nous le raconte, c'est écoutez ça.
C'était il y a 12 ans. Luo Tiantian est agressée par son professeur à l'université. Elle hurle « S'il vous plaît, ne faites pas ça, je suis vierge ». Le 1er janvier dernier, Luo a dénoncé publiquement l'agression sous le hashtag « Wo Ye She », Traduction en chinois du MeToo américain. « Nous devons nous lever et dire non », a écrit l'ancienne étudiante. La radio publique CNR vient de diffuser une interview de la jeune femme qui a aujourd'hui 30 ans.
L'une des principales difficultés auxquelles font face les victimes, c'est le manque de législation et de règlement. Ça nous oblige, nous les victimes de harcèlement sexuel, quand on porte plainte, de montrer des preuves très convaincantes. L'autre difficulté, c'est la pression sur ces victimes. Dans mon procès contre le professeur, je m'inquiétais chaque jour de voir d'autres filles abandonnées, car chaque témoignage était une preuve de plus contre lui. Nous devons être conscientes qu'être harcelé sexuellement, ce n'est pas notre faute, c'est la faute de l'agresseur. J'espère pouvoir continuer de témoigner dans les universités.
L'une des autres figures du hashtag OYESHE, c'est Huang Xuetin. Basée à Canton, elle a été victime de harcèlement sexuel en 2012. Journaliste, elle a mené une enquête auprès de 250 femmes, également journalistes en Chine. 80% ont répondu avoir été harcelées sexuellement sur leur lieu de travail. Mais le contrôle de l'Internet, le poids de la société, la méfiance du Parti communiste chinois à l'égard de tout mouvement sont autant d'obstacles que rencontrent les victimes, confirme l'avocat Lu Xiaotian, spécialiste des droits des femmes.
Pour les fonctionnaires, une vraie rééducation est nécessaire avec l'arrivée de la Chine de ce mouvement Moi aussi. Les voix qu'on entend ont de l'écho dans la sphère publique. Cela va obliger le ministère de l'Éducation nationale à mettre en place des moyens pour lutter contre le harcèlement sexuel à l'université. D'ailleurs, le ministère réfléchit à comment collaborer avec les Hong pour créer un système de prévention dans les universités pour éviter qu'il y ait des affaires comme celle-là.
Le hashtag OYESHE n'est que la toute petite partie visible de l'iceberg. Les féministes espèrent que d'autres femmes oseront briser le silence d'un sujet grave que le Parti communiste chinois ne peut complètement étouffer.
Dominique André en Chine pour nous expliquer ce MeToo chinois. Claire Pomarès, ce qui est intéressant dans ce que vient nous expliquer Dominique, il y a la voix d'un homme d'ailleurs qui dit ça, qui dit « il faudra rééduquer ». Les hommes. Le terme rééduquer est intéressant tel qu'il est employé.
Oui, oui, et c'est ce qu'on retrouve dans de nombreux témoignages sur le mouvement MeToo, où on parle vraiment de refaire l'identité masculine et en gros de réinterroger la place de l'homme aussi et pas que la place de la femme.
Et d'autant plus compliqué probablement dans un pays comme celui-là.
Tout à fait, où en plus les politiques sociales actuelles définissent vraiment la femme, enfin, mettent la femme dans un carcan très traditionnel, vraiment dans la famille et où elles doivent combattre pour leur identité.
Et illustré d'ailleurs par un autre papier juste en face de celui-là, dans ce numéro spécial de Courrier International, sur le choix exclusif de la famille en cas de césarienne. Ça veut dire des morts, ça veut dire tout ça, c'est dire d'où on part. En fait.
C'est ça, c'est un article extrêmement violent qui fait témoigner, en fait, qui met en miroir deux femmes qui se sont suicidées pendant leur accouchement, en fait, tellement elles souffraient, tellement elles avaient envie de pouvoir choisir pour leur propre corps, mais il fallait absolument le consentement de leur mari ou de leur famille, et les avis différaient.
Et là aussi, c'est un journal de Pékin qui raconte. Je voudrais qu'on aille en Syrie ensemble, parce que là, ce papier, pour le coup, m'a totalement étonné. C'est de Beyrouth ce qu'il vient, et qui raconte, nous sommes en Syrie, dans la province, une province nord de la Syrie. Techniquement, ça s'appelle le Rojava, donc c'est le Kurdistan,
c'est le Kurdistan
syrien, réellement, avec des femmes qui sont en train de préparer un village exclusivement féminin.
C'est ça, c'est le village Diwan, ce qui veut dire en kurde l'endroit des femmes, qui est en cours de construction, hein, où les femmes vivraient sans les hommes. Alors, les femmes qui ont déjà un petit garçon seraient bien sûr acceptées, mais le petit garçon, les garçons devront être éduqués selon des préceptes féministes.
Et se montrer compréhensif, c'est ce qu'ils disent. C'est ce que les femmes expliquent dans ce papier.
Exactement. En fait, c'est vraiment c'est vraiment une organisation féministe kurde qui a mis en place cette initiative qui peut paraître très extrême.
Ah oui, on entend hurler déjà de l'autre côté du poste. Mais enfin, c'est très intéressant à lire.
Oui, c'est très intéressant parce que c'est aussi un modèle anticapitaliste qui donc associe le capitalisme à la virilité et à la masculinité et qui veut prendre le contrepoids, en fait, en étant un village avec une autogestion où, en fait, on vit de l'agriculture locale et où, effectivement, les femmes peuvent vivre dans un espace de liberté en toute sécurité, en fait.
Et c'est d'autant plus intéressant quand ça vient des Kurdes qu'on sait aussi qu'il y a une place de la femme qui est très particulière chez les Kurdes. absurde. Enfin, il y a des combattantes notamment et qui ont beaucoup d'ailleurs œuvré au moment de la, enfin en ce moment encore d'ailleurs au moment de la guerre en Syrie. Donc ce côté-là chez les femmes kurdes est extrêmement intéressant à suivre et à lire.
Oui, c'est très intéressant parce que ça met en lumière toutes les problématiques qu'elles peuvent rencontrer au niveau de leur corps, au niveau des politiques de pouvoir mises en place. Et aussi tout le modèle économique entre guillemets de ce village qui se veut, enfin qui veut porter certaines valeurs en fait,
qui est à petite échelle, alors qui est prévu pour être à petite échelle.
Toute petite échelle, c'est 200 personnes hein, qui seraient dans ce village.
Donc avec des femmes qui ont le droit de venir avec leurs enfants, y compris enfants masculins, mais attention, doivent se montrer compréhensifs. Sinon, on imagine quoi qu'en grandissant, ils devront quitter le village. Est-ce que c'est comme ça qu'on l'imagine si on pousse le bouchon très loin?
On peut imaginer effectivement que si les hommes ne suivent pas le pas, ils devraient quitter le village. Après, bon, on n'en est pas là parce qu'on est.
Ouais, on n'y est pas, mais vraiment, je vous conseille très largement ce papier qui nous vient directement de Beyrouth. Je voudrais qu'on aille en Israël auprès des Palestiniennes qui ont la nationalité israélienne. Le terme générique, ce sont les Arabes israéliens. Et pour les femmes, là aussi, double contrainte et double peine. On disait aussi pour les Chinoises à l'instant, puisqu'on est au carrefour de deux sociétés. Il y a une femme qui symbolise ce combat. Elle s'appelle Sama Salem. On va en parler dans un instant. On écoute d'abord le reportage d'Étienne Monin.
Et quand on écoute la voix calme, posée, argumentée de Sama Salem, on comprend que les femmes qu'elle défend souffrent d'un effet ciseau avec une double discrimination. Ces femmes dont elle fait partie ont une double identité. Elles sont palestiniennes, nées dans des familles qui étaient soit dans les frontières de l'État d'Israël, soit dans la partie conquise pendant la guerre de 1948. Aujourd'hui, elles vivent dans l'État d'Israël, elles en sont citoyennes et elles subissent des discriminations des deux sociétés.
Le rejet des populations arabes palestiniennes dans l'État d'Israël est en augmentation. Avant, c'était quelque chose de caché. Nous, on le savait. Mais maintenant, ça se fait à visage découvert. C'est même une fierté pour un leader politique juif. Donc, comme arabe, comme une minorité arabe, on doit faire avec cette oppression qui vient du système. Et à côté de ça, dans chaque société fermée, patriarcale, les femmes sont en seconde classe. Donc mon combat, comme palestinienne, c'est de combattre les deux oppresseurs, l'arabe et le juif.
En Israël, il n'y a pas de laïcité. Le droit personnel est géré par les tribunaux religieux. Les juifs ont leur cour, les musulmans ont la leur. Elles gèrent entre autres les mariages et les divorces. Elles sont héritées du droit ottoman. C'est un système archaïque, estime Sama Salem. Il est au cœur d'une société moderne, Israël, qui n'a pas valeur de modèle dans la région sur le plan du droit des femmes.
En ce moment particulièrement, j'aimerais vraiment être une femme en Tunisie, par exemple. Ils ont encore beaucoup de travail à faire, mais on est 30 ans en arrière ici. Israël est très ouvert, très moderne, très démocratique dans tous les domaines. Mais quand vous entrez dans les histoires de genre, c'est le retour à la religion. Et moi, j'ai vraiment besoin d'être traitée, non pas comme une musulmane, mais comme une citoyenne.
L'association de Sama Salem a presque 10 ans. Elle a été créée après le meurtre de plusieurs femmes palestiniennes en Israël pour tenter d'obtenir un véritable investissement de la police israélienne dont les taux d'élucidation plafonnaient dans le domaine à 20%.
C'est donc Étienne Monin qui nous raconte l'histoire de Sama Salem. Claire Pomares, c'est elle qui signe un papier que vous reproduisez, un papier d'un magazine de Tel Aviv. Moi, ce que j'ai trouvé extrêmement fascinant, c'est elle parle des femmes qui s'expriment sur les groupes Facebook. Et elle dit, ces femmes qui s'expriment ont aussi un conjoint, et c'est l'homme arabe nouveau. Il y a beaucoup d'optimisme dans le papier qu'elle signe, en disant, quelque chose va changer, est en train de changer déjà, en fait.
Oui, tout à fait. C'est ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur vraiment une vision d'une redéfinition de l'identité masculine. Et le papier est très intéressant parce que il met en lumière que si les luttes sont toujours finalement pour les mêmes droits, hein, puisque sur l'égalité ça ne change pas vraiment, les moyens sont différents. Et donc là, c'est vraiment à travers les réseaux sociaux qu'elle découvre tout un mouvement féministe de femmes arabes et qu'elle-même, en tant que palestinienne, elle se dit une palestinienne éclairée. Mm-hmm. Elle est surprise en fait de ce mouvement féministe de ces femmes arabes très multiples qui sont très diverses, qui sont ou mariées ou célibataires, chrétiennes, musulmanes. Et donc du coup, elle décrit vraiment ce mouvement comme une évolution de la société.
Et elle dit, je suis convaincue que le mouvement viendra où nos maris, nos pères, nos enfants, nos fils n'auront plus d'autre choix que de participer au changement. Une conception nouvelle de la virilité, même un homme arabe nouveau. Ouais. Ce qui est un discours discours très neuf aujourd'hui,
oui,
en fait.
Qui est un discours très neuf et qui est en fait, finalement, à travers tous les articles dans notre hors-série, qui résonne, en fait, sur la fluidité du genre, hein, quelque part. Hein.
Et ben, puisque vous parlez de fluidité du genre, les photos, oui, notamment, j'ai oublié le nom de la photographe, mais ça va me revenir tout de suite.
Moi aussi.
Laurence Philomène.
Exactement. Une photographe montréalaise, oui, tout à fait, qui a fait un portfolio sur la non-binarité.
Qui brouille les frontières du genre, en
exactement
fait. Alors ça, c'est intéressant pour le coup, parce que c'est bien que ça vienne d'Amérique du Nord, parce que ce sont des choses que nous, on a finalement pas tant abordé que ça. Ne serait-ce que le terme qu'elle emploie, le terme de queer, oui, est un terme nord-américain qui n'existe pas. On n'a pas donné de définition, on n'a pas donné de traduction, nous, en France.
Tout à fait, on n'a pas de traduction. Et à la base, en plus, ça part d'une insulte anglaise. Mais pourtant, la réflexion, elle part de là. Elle part vraiment de qu'est-ce qui est une femme, qu'est-ce qui est un homme, et pourquoi il n'y a pas de frontières entre les deux.
Voilà, et brouiller les frontières du genre.
Plutôt pourquoi il y a des frontières entre les deux.
Et où le genre n'est pas déterminé par le sexe, c'est en tout cas ce qu'elle essaye de raconter au travers de ses photos. Il nous reste une petite trentaine de secondes. Claire Pomarès, est-ce qu'il y a un article en particulier, vous, qui vous a particulièrement frappé, que vous avez particulièrement aimé, que vous voudriez absolument qu'on lise?
Par exemple, un article sur le tabou de l'avortement à la télévision.
Ah bah c'est marrant, c'est le mien aussi.
Ah c'est vrai, parce que je le trouve très intéressant. C'est comment, avec la culture populaire, on peut faire avancer les choses. À un moment où le droit à l'avortement aux États-Unis est remis en question, on voit que dans les séries américaines, on utilise en fait ce biais-là pour montrer l'importance de ce droit aux femmes.
Et je le conseille vraiment aussi parce qu'on voit aussi l'évolution dans certaines séries télé. Aujourd'hui, on en parle très ouvertement, oui, et Handmaid's Tale, et Crazy, et Girls. Exactement. Mais dans toutes les séries précédentes, y compris des choses que tout le monde a vues, les Desperate Housewives, les Sex and the City, 80% des femmes qui pensent avorter un moment décident de ne pas le faire.
Finalement.
Au dernier moment.
Exactement.
Donc ça dit aussi beaucoup de choses. On vous le conseille vraiment. On est content d'être partenaire de ce numéro, de ce hors-série de Courrier International, Femmes, un combat mondial. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Claire Pomarès, à bientôt.
Merci, à bientôt.
France Inter. Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde en Corée avec cette équipe de hockey féminin étonnante Nord et Sud. Vous entendrez parler d'une joueuse, notamment une Coréenne du Nord qui est au Sud depuis longtemps et son histoire est vraiment étonnante. Sous les radars au Canada, en Inde, au Royaume-Uni. 18h50, le cinéma en VO. Eva Bétan, bonsoir.
Bonsoir.
Deux films pour le prix d'un alors.
Oui, deux films qui parlent d'attentats qui ont lieu récemment, ces dernières années. Attentat de Boston, attentat dans le Thalys. Pauvreté du propos, mais qui est peut-être le symptôme de notre désarroi à tous face à cette forme de guerre qu'est le terrorisme.
Et vous nous en parlez donc dans un instant. Bonsoir Jean-Marc Four.
Bonsoir Fabienne.
18h55, le monde à l'envers, Angela Merkel devenue super européenne. Alors.
Vous savez quoi? C'est les premiers mots de l'accord de coalition aujourd'hui en Allemagne. Ein neuer Aufbruch für Europa. Un nouvel élan pour l'Europe, ça promet.
Vous nous le redirez tout à l'heure. À tout de suite, restez avec nous. David Bowie, Marianne Faithfull sur France Inter. I got you babe.
They say we're young and we don't know, and we won't find out until we go. I don't know if all that's true, but you've got me, and maybe I've got you. Babe, I've got you, babe. I've got you, babe. They say our love won't pay the rent before it turns out money's always spent. I guess that's so, we don't have a lot, but at least I'm sure of all the things we've got. I've got you, babe. I've got you, babe. I've got flowers in the spring. I've got you to wear my ring. Too long. I don't care with you.
put your little arms in mine. There ain't no river or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I've got you to walk with me.
I got you to talk with me.
I've got you to hold my hand.
I got you to understand.
I've got you to kiss goodnight.
I got you to hold me tight.
I've got you and I won't let go.
I got you to love me so.
Bravo David Bowie, Marianne Faithfull, I got you babe, thank you aussi.
Hello. France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars, c'est l'actualité internationale dénichée dans les recoins de la planète. Par vous, Laetitia Gaillet, on commence par une histoire d'un pays qui change deux mots dans son hymne.
Oui, il s'agit du Canada. Les sénateurs canadiens ont voté une loi il y a quelques jours qui réécrit donc les paroles de l'hymne national. L'histoire pourrait paraître banale, sauf que ces deux mots ne sont pas rien, jugés plus tôt. Alors ça ne sent tant peut-être ouais, pas alors, très bien
on
ici.
On juge moyen.
Mais ici, la phrase dit
« The true patriot, love in all thy sons command ».
Que l'on pourrait traduire, Fabienne, par « un vrai amour de la patrie anime tes fils » et qui va être transformé par « true patriot, love in all of us command ». Un vrai amour de la patrie nous anime tous. Comprenez, fini l'hymne masculino-genré, je ne sais pas si ça se dit, mais tout le monde comprendra. Il devient neutre ici. C'est peut-être rien, dit une sénatrice canadienne, mais c'est un énorme symbole. On rend hommage au sacrifice de tous à faire du Canada un pays unique, dit encore Maurice Bélanger, qui a porté le texte devant le Sénat. D'autant qu'il a fallu 20 ans de combat pour aboutir à ce changement. Et pour la petite histoire, Fabienne, ce changement n'est autre qu'un retour aux sources. Le texte original écrit en 1908 par un certain Robert Stanley Ware. Alors on verra bien ce qu'en feront les médaillés d'or olympiques canadiens aux Jeux de Pyeongchang. Jesse Lumsden, qui est freineur en bobsleigh, a des rêves.
Ultimate goal is to sing the national anthem at the Olympics.
Et oui, hop, puisque l'objectif ultime, dit-il, est de chanter l'hymne national aux Jeux Olympiques. Mais il prévient dans le même temps, les paroles de cet hymne national sont enracinées en moi depuis 36 ans. Je ne me souviendrai pas de ce changement. Je suis désolée pour tous ceux que je pourrais offenser. Allez, un petit effort,
mais
bonhomme.
Il a qu'à prendre une antisèche, si c'est écrit dans la main, j'en sais rien, n'importe quoi. Allez, on part en Inde à présent, 5 ans après le viol d'une étudiante dans un bus. Est-ce que les choses ont vraiment changé?
Souvenez-vous, c'était en 2012.
A young woman was allegedly gang raped in a moving bus. Brutal rape in the capital.
The 23-year-old died in a Singapore hospital after suffering severe organ failure. The death of the woman sparked mass protests across the country.
The family, of course, is shattered by this.
Pour la première fois, les Indiens et surtout les Indiennes avaient manifesté pour dénoncer les violences faites aux femmes en Inde, notamment dans les transports en commun. Le Guardian a interrogé des jeunes femmes, des mères, et on se rend compte que s'il y a toujours des problèmes, comme le dit cette jeune femme,
you cannot even think about taking a public transport after 9 o'clock.
Vous ne pouvez toujours pas imaginer prendre les transports en commun après 9h le soir. Il n'empêche, la parole se libère et les actes aussi. Ainsi, on voit des adolescentes investir des salles de boxe et les plus jeunes, les cours de karaté. Pour ce professeur de karaté, c'est un vrai choix des parents.
La raison principale pour laquelle les parents envoient les enfants ici est cette arrière-pensée. Si je ne suis pas là avec ma fille, pourra-t-elle se défendre ou non? Tout est dit.
Tout est dit.
Allez, pour terminer l'image du jour, c'est l'image d'un homme.
On fait de la radio, Fabienne, alors je vais essayer de vous le décrire. Il s'agit de Sheddar Mann, le premier homme britannique. Des chercheurs ont reconstitué son visage à partir de son squelette grâce au séquençage de son génome. Le premier homme britannique, il y a 10 000 ans, donc depuis l'ère glaciaire, était, qu'on se le dise, noir, avec des cheveux bouclés et des yeux bleus. Pour expliquer l'évolution de la couleur de la peau, les chercheurs associent deux éléments, l'invention de l'agriculture et la modification du régime alimentaire plus pauvre en vitamine D.
Allons bon, Laetitia Gaillet sous les radars. Merci beaucoup.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem,
Pékin, le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
Et nous sommes en Corée du Sud, dans une patinoire, tiens, à la veille de l'ouverture des, l'avant-veille de l'ouverture des Jeux Olympiques, des Jeux un peu spéciaux. La Corée, celle du Nord, qui nous a beaucoup occupés, forcément, ces derniers temps, qui sera là aussi. Et ce qui déchaîne les passions coréennes, c'est cette donc fameuse équipe mixte, une équipe féminine, mais mixte, moitié Nord, moitié Sud. Un symbole, évidemment, qui ne plaît pas à tout le monde. Bonsoir, Frédéric Ojardias.
Bonjour, Fabienne. Bonjour à tous.
Bonjour. Vous avez rencontré une joueuse nord-coréenne de hockey sur glace. Elle est passée au Sud, mais c'était avant, où elle a joué pour l'équipe nationale. C'est un parcours absolument étonnant qu'il faut que vous nous racontiez.
Oui, elle s'appelle Hwangbo Yang. Elle est née à Cheongjin, une grande ville de Corée du Nord située près de la frontière chinoise. Gymnaste accomplie, elle est repérée à l'âge de 12 ans et intègre l'équipe nationale de hockey sur glace, un sport dont elle n'avait jamais entendu parler, comme la majorité de ses compatriotes.
Le hockey sur glace n'est pas populaire parce qu'il n'y a pas de patinoire en Corée du Nord. L'hiver, on répand de l'eau sur le sol, on met une barrière et on attend que ça gèle, c'est tout. C'est possible seulement quand il fait assez froid, c'est pour ça que le hockey n'intéresse pas les gens. 10 mois sur 12, nous nous entraînions avec de simples baskets. Et franchement, les Nord-Coréens sont tous trop occupés à survivre, peu s'intéressent au sport.
À 18 ans, Hwangbo Yang s'enfuit avec sa famille en Chine, puis en Corée du Sud, où elle se fait alors recruter par l'équipe nationale. Elle est si talentueuse qu'elle devient même capitaine de cette équipe. En 2003, lors des Jeux asiatiques au Japon, un match oppose les deux Corées, mais ses retrouvailles très attendues avec ses anciennes coéquipières ne se passent pas du tout comme prévu.
On logeait dans le même hôtel. Même si les Nord-Coréennes et les Sud-Coréennes ne logeaient pas au même étage, on se croisait souvent, notamment pour aller manger à la cafétéria. Quand elles me croisaient, les Nord-Coréennes me disaient « Tu es une traître, tu n'es même pas humaine ». Dans un ascenseur, une ancienne camarade m'a dit « Tu perds rien pour attendre ». Avant le match, quand les joueuses se serrent la main, elles ont refusé de serrer la mienne. Je m'étais placée en bout de ligne parce que j'espérais pouvoir leur dire au moins un mot. Mais tout ont filé devant moi sans me regarder, j'étais affreusement mal à l'aise. Tous les spectateurs m'observaient, les journalistes prenaient des photos. Un journal japonais a ensuite publié une photo de moi en train de regarder par terre, l'air misérable. Je voulais me cacher sous terre.
Hwangbo Yang a ensuite réalisé que ses anciennes amies n'avaient pas le choix, la moindre marque de sympathie à son égard leur aurait sans doute valu de graves punitions.
Mais alors Frédéric, qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui, cette hockeyeuse ?
Eh bien, elle a pris sa retraite sportive il y a 7 ans. Aujourd'hui, elle est entraîneuse et elle se dit opposée à la création de cette fameuse équipe coréenne unifiée pour les Jeux Olympiques, car elle refuse qu'on se serve de son sport à des fins politiques. Et elle trouve la décision injuste pour les hockeyeuses sud-coréennes qui étaient déjà qualifiées et qui se voient imposer à la dernière minute des joueuses complètement inconnues.
Même pendant l'entraînement, on a pu voir que les nordistes sont moins efficaces. La qualité de leurs tirs, de leurs déplacements est inférieure à celle des sudistes. Mais même si je suis opposée à cette équipe unifiée, même si ça ne me plaît pas, l'équipe est là. Alors j'espère que les filles joueront bien ensemble et décrocheront de bons résultats.
Frédéric, j'ai une question un peu naïve. Est-ce qu'il y a des problèmes d'incompréhension entre sudistes et nordistes au sein de cette équipe unifiée ?
Alors, cela semble surprenant, mais il y a un petit problème de langue. Le langage coréen est pourtant le même, mais des divergences sont apparues entre Nord et Sud après 70 ans de division. Le Sud-Coréen a adopté de nombreux anglicismes, tandis que le Nord a créé ses propres néologismes en pur coréen. Les hockeyeuses de l'équipe unifiée ont donc reçu un lexique de 3 pages, censé les aider à mieux communiquer sur la glace. Mais ce problème n'est pas insurmontable, relativise Hwangbo Yang.
Les hockeyeuses nord-coréennes ont peut-être entendu pour la première fois le mot shoot, qui veut dire tir. Elles-mêmes utilisent le mot coréen qui signifie attaque. Faire la passe se dit pass au sud et contacter au nord. Changement de joueur, c'est change ici et remplacement là-bas. Hors-jeu se dit offside au sud et violation d'attaque au nord. Mais les hockeyeuses ont appris tous ces mots lors de leur entraînement conjoint. Je ne pense pas que ces différences linguistiques seront un problème.
C'est d'ailleurs l'une des principales complaintes des 30 000 Nord-Coréens qui ont trouvé refuge au Sud. Ils affirment que le Sud-Coréen contient trop d'anglicismes et de mots qu'ils ne comprennent pas et que cela complique encore davantage leur intégration dans cette société démocratique, capitaliste et individualiste qui est si différente de la leur. Ils souffrent aussi de discrimination. Hwang Bo-young raconte ainsi qu'un petit ami l'avait quittée parce qu'elle venait du Nord. Mais elle s'est bien adaptée à la vie en Corée du Sud grâce au hockey sur glace.
À la différence de nombreux autres réfugiés nord-coréens, je faisais quelque chose en Corée du Nord que j'ai pu continuer à faire ici au Sud. Même si je ne gagne pas tant d'argent comparé aux Sud-Coréens, je n'ai pas eu besoin de faire des choses désagréables pour survivre ici. Grâce au hockey sur glace, j'ai ainsi pu m'intégrer facilement dans la société sud-coréenne.
Le premier match olympique de ces fameuses hockeyeuses coréennes réunifiées aura lieu samedi contre la Suisse, un match que Hwang Bo-young regardera à la télévision.
Étonnant personnage, merci beaucoup Frédéric Ojardias. On aura l'occasion d'en reparler de ces deux équipes, de la diplomatie du hockey, tiens précisément demain à la veille de l'ouverture des Jeux. Vous savez que c'est la sœur de Kim Jong-un qui sera présente dans les tribunes. On aura l'occasion largement d'en reparler demain. Duran Jones and the Indications. Souriez quoi, smile. And the Indications nous demande de sourire, et bien c'est fait ici.
3, 2, 1,
Winter. France Inter.
Movies are made of light.
Le 18-20.
Appelons ensemble votre jury.
And the winner is.
Un jour dans le monde.
Action!
Action! Le cinéma en VO, Eva Bétan, rebonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui, Eva, bonsoir. Smile. Deux films pour le prix d'un, donc vous avez eu deux films, on va dire, dans le même package.
Voilà.
Alors, on parle presque de la même chose, mais vous allez nous expliquer tout ça. Vous avez vu 15h17 pour Paris, donc ça, c'est signé Clint Eastwood, et on parle de l'attentat du Thalys, c'était le 21 août 2015.
Oui.
Vous avez vu Stronger de David Gordon Green, ça, c'était l'attentat du marathon de Boston.
En 2013. Alors,
qu'est-ce qu'on dit? Alors, coïncidence de sortie, point commun?
Il y a des points communs. Après, on va parler de chaque film. Le cinéma américain a toujours su mieux que le cinéma européen prendre l'actualité pendant qu'elle se faisait. Il y a eu des grands films sur la guerre du Vietnam, par exemple, qui ont été des films critiques. Je dirais que le terrorisme, c'est peut-être plus difficile à traiter au cinéma. C'est une forme de guerre, entre guillemets, qui n'est pas circonscrite. Alors, certes, dans les séries télé, le terroriste islamiste est devenu le méchant, mais encore. On remarque dans ces films, j'ai remarqué trois choses, trois points communs. C'est qu'ils se placent du côté de l'individu ordinaire, de l'américain en l'occurrence, victime qu'il héroïse. Deuxième point commun, de n'avoir aucun propos sur le terrorisme lui-même et même d'éviter de l'aborder, c'est-à-dire que les terroristes qui ont commis ces attentats ou tenté de le commettre pour le Thalys, on n'en parle même pas. Et le troisième point commun, c'est la pauvreté de ces films sur le fond, mais qui est peut-être un symptôme de quelque chose d'actuel.
Eh bien, on va voir ça donc l'un après l'autre. Vous le disiez, Boston d'abord, le film Stronger, c'était lors du marathon de Boston en 2013. Je voudrais qu'on se remette d'abord dans l'ambiance de l'époque, le moment où ça s'est produit. C'est aussi brut que ça, mais c'est comme ça que ça s'est passé, devant les téléspectateurs, puisqu'on est en train de suivre
le marathon
de Boston à la télévision, un des très grands marathons américains.
Alors là, on est dans un archétype des trucs du cinéma, de tous les cinémas américains ou autres, c'est qu'on suit un type juste avant, il travaille dans un restaurant, il va aller soutenir son ex-petite amie qui court le marathon, et il est vraiment devant la ligne d'arrivée, là où la bombe va exploser, il a les deux jambes broyées. Amputation. Pourquoi cet homme devient un héros? Il devient un héros parce que d'abord il y a eu sa photo dans les journaux, parce qu'il a vu, il a frôlé un des terroristes, il l'a décrit, ça a permis de l'arrêter. Et aussi il y a un homme qui lui a sauvé la vie. Alors il y a un sujet qui est intéressant, qui est effleuré dans ce film, et malheureusement le réalisateur ne se concentre pas dessus, c'est l'absurdité et la vanité du héros. Il n'a rien fait qu'être au mauvais endroit, au mauvais moment, mais il y a besoin d'héroïser quelqu'un. Il y a besoin, et on voit tout le folklore américain. Il lance la balle lors du match des Red Sox, un truc, voilà, le
sûrement
quelque chose.
Ça existe. Voilà, les Red Sox à Boston.
Ça s'appelle du baseball. Bref, tout ce folklore américain et en même temps l'absurdité. Pourquoi en faire un héros? Ça dit aussi le désarroi. C'est pour ça que je dis qu'il y a une forme de symptôme dans cette absence de propos.
Ça, il a envie de créer des héros, justement, après ces
histoires-là. Créer des héros parce que on ne peut rien répondre. Face au terrorisme, il y a cette phrase qu'on nous dit depuis 15 ans, depuis le 11 septembre, nous sommes forts parce que nous continuons à être debout. Et elle devient comme creuse. Là où le film pêche, c'est qu'il a un formidable sujet sur cette vanité, en quelque sorte, du terrorisme, mais il le noie dans du mélo, la petite amie, sur des clichés, sur des choses de ce genre. C'est dommage parce qu'il y avait là un sujet important.
Alors, c'est marrant ce que vous dites, parce que dans le film d'Eastwood, là, pour le coup, 15h17 pour Paris, alors là aussi, en fait, ce sont les héros qu'on met en avant, et même les vrais héros.
Oui, mais eux, ils ont fait vraiment fait un acte héroïque, je dirais. Je vous rappelle les faits, ce sont trois Américains, soldats, qui vont intercepter le terroriste quand il sort des toilettes avec une arme pour tuer tout le monde.
On est dans le Thalys.
Là, il va faire un montage alterné. Donc, il vous montre, vraiment, il s'étend pas sur l'attentat. Il vous montre par petits bouts en microscopique, en quelque sorte, un montage alterné avec la vie de ces trois hommes. On les voit enfants, on les voit faire leur voyage plein de clichés en Europe quand ils deviennent adultes, mais il y a un type qui l'intéresse. Mmh. Celui-là, dès l'enfance, il est intéressé par les armes. Il entre dans l'armée pour aider. On entre dans l'armée pour aider et on voit tout le processus de recrutement. C'est quasiment un prospectus sur l'armée. Et donc cet homme qui voulait aider, ben oui, il a l'occasion d'aider. Il saute sur le terrorisme. Donc quelle conclusion faut-il en tirer? Qu'il vaut mieux avoir des soldats avec soi dans un train, c'est quand même faible. Je dirais que c'est un film raté.
Ah bon, à ce point-là?
Oui, c'est un film raté parce que non seulement il y a une absence de propos, mais ça laisse perplexe. Dans l'autre, je dirais la pauvreté, la faiblesse du propos montre notre perplexité. Et dans là, and so what? Il était soldat, il a arrêté et il aimait les armes quand il était petit garçon.
Mais la complexité dans ce que vous dites, Eva, il nous reste une petite poignée de secondes. C'est aussi que si les films sur le Vietnam notamment sont réussis, c'est parce qu'ils sont faits au moins un peu après. Donc on sait comment ça se termine.
Un peu après, mais il y avait
là,
un propos.
On est toujours dedans, en fait.
Oui, mais c'est plus facile de dire l'Amérique a tort quand vous voyez Né un 4 juillet de Liverson, quand vous voyez Platoon, quand vous voyez Apocalypse Now. Il y a un propos sur la guerre. Là, c'est assez extraordinaire. Le hors-champ des terroristes et ce discours très faible sur la victime.
Bon, bah on peut y aller quand même pour se faire
comme
une idée.
Vous voulez.
Mais on a bien compris que c'était pas tout à fait vos films préférés, Eva Bettan. Merci beaucoup.
Le 18-20. Fabienne Saintès. Sur France Inter.
Le monde à l'envers de Jean-Marc Four, les élections allemandes, tiens, je vais vous le rappeler, c'était le 24 septembre dernier. Tout vient à point, à qui c'est attendre, comme dirait l'autre. Il a quand même fallu attendre jusqu'à aujourd'hui, donc, pour qu'Angela Merkel trouve une vraie coalition avec le SPD. Voilà que le quatrième mandat commence maintenant seulement. Et quand on lit, Jean-Marc, le contenu de cet accord de coalition, il y a beaucoup, beaucoup question d'Europe, et c'est votre monde à l'envers de ce soir. Est-ce que la chancelière est en train de devenir vraiment, vraiment européenne.
Oui, c'est le monde à l'envers parce que nous parlons bien ici d'Angela Merkel. Angela Merkel qui, depuis 12 ans, depuis qu'elle est chancelière, traîne des pieds à chaque fois qu'il faut s'occuper de l'Europe. Vous connaissez d'ailleurs son surnom auprès des diplomates européens, Frau Nein, Madame Non. Angela Merkel, plus préoccupée de regarder vers l'Est que vers l'Ouest, surtout préoccupée de préserver les intérêts économiques allemands avant toute chose. Souvenez-vous, pendant toute la durée de la crise de la zone euro, en particulier la crise grecque, elle a campé sur des positions rigides. Et par-dessus le marché, nous parlons aujourd'hui d'une Angela Merkel réputée affaiblie, sans idées à l'aube de ce quatrième mandat qui serait le mandat de trop selon la presse allemande. Eh bien, surprise. Voilà donc que Madame Merkel sort de sa botte un accord qui change la donne. On a peut-être sous-estimé une nouvelle fois sa capacité à rebondir. Cet accord, le voici. Je vous montre un exemplaire du document ici en studio. Vous voulez que je vous le donne pour
Allez-y.
Votre lecture de
ouais,
chevet ce
sûr.
Soir. Voilà, ça s'appelle Koalitionsvertrag, accord de coalition. Et regardez bien quelle est la première tête de chapitre de cet accord. C'est marqué juste en haut, au-dessus. Ein neuer Aufbruch für Europa, un nouvel élan pour l'Europe.
Dites donc, je peux tout raconter, c'est le sommaire que vous m'avez donné.
Là, c'est le sommaire, mais je vous donne la suite, il y en a 170 pages si vous voulez.
En tout cas, la formule est très chic, qu'est-ce qu'il y a dedans alors?
Est-ce qu'il y a du concret?
Ouais,
eh bien, c'est
concret.
La surprise, oui, il y a un peu de concret. Je ne vais pas vous lire toutes les pages en allemand de ce chapitre consacré à l'Europe, mais en résumé, deux choses. D'abord, la prééminence du moteur franco-allemand. Alors c'est là, voilà, page 9, Stärken und reformieren Eurozone mit Frankreich, renforcer et réformer la zone euro avec la France. Et concrètement, il est question de créer un fonds monétaire européen, d'envisager un budget de la zone euro en mettant la main au pot. Bon, faut pas rêver non plus, cet accord de grosse coalition, grande coalition en allemand, on va pas jusqu'à reprendre les idées françaises d'un ministre européen des finances ou d'une défense commune. Il y a quand même un premier pas. Et maintenant, regardons qui va gérer le dossier. Et là, deuxième surprise, la chancelière confie la tâche, non pas son parti de centre-droit, la CDU, mais à son allié de centre-gauche, le SPD, futur ministre des Affaires étrangères et ministre des Finances, deux ténors sociaux-démocrates, Martin Schulz et Olaf Scholz, tous deux partisans ardents de l'intégration européenne.
Alors la question que j'ai envie de vous poser maintenant, évidemment, c'est est-ce que tout ça est sincère ou est-ce que c'est juste un joli petit coup tactique, quelque chose de stratégique?
Bonne question, Frau Saintès. Vous vous doutez bien qu'Angela Merkel ne fait pas ça pour les beaux yeux de Emmanuel Macron. Il y a des raisons effectivement beaucoup plus prosaïques dans ce virage. Sur le plan intérieur d'abord, elle sauve son accord de coalition en donnant des gages à son partenaire, le SPD. Elle joue sur le fait que l'opinion publique allemande est aujourd'hui plus ouverte à l'Europe que lors de la crise grecque. Sur le plan extérieur ensuite, elle prend acte que Paris est probablement le seul interlocuteur qui tienne. États-Unis de Trump imprévisible, Royaume-Uni de Theresa May empêtrée dans le Brexit, Italie ensablée dans l'incertitude électorale, République tchèque, Pologne, Hongrie glissant chaque jour un peu plus vers des régimes populistes et autoritaires. Il y a donc bien un calcul tactique conjoncturel. Y a-t-il davantage? Voilà la question. Angela Merkel a-t-elle une révélation? Peut-elle devenir intimement pro-européenne? Ce serait une évolution majeure pour l'avenir du continent. Elle se fixerait alors pour objectif de consacrer son quatrième et sans doute dernier mandat au renforcement de l'Europe pour laisser une trace dans l'histoire façon Helmut Kohl. Nous n'en sommes pas là, il s'en faut de beaucoup, mais le petit pas d'aujourd'hui nous chatouille.
Le petit pas de Jean-Marc Four et le monde à l'envers. Merci beaucoup, Sébastien Power, dans un instant.